qu'il est bon de connaître la belle-sœur du président, Valéria, artiste comme Carla, pas chanteuse mais comédienne, de gauche mais vraiment, apparemment du moins, très beaux yeux bleus, bleu mouillé et grand cœur. Pour mémoire, dans son CV, il y a La Seconda Volta, un film avec Nanni Moretti, où elle joue le rôle d'une ancienne terroriste, c'était en 95, et aujourd'hui elle s'en souvient, comme quoi la fiction laisse des traces. Et ces derniers temps, elle a plaidé pour Marina Petrella, ex-membre des Brigades Rouges, sous le coup d'un arrêt d'expulsion après 15 ans de vie normale en France et du coup d'une sacrée dépression intraitable. Sarkozy voulait la renvoyer en Italie, à Berlusconi. Pas de droit à l'oubli, pas de pardon, le passé ne passait pas pour le chef de l'État, jusqu'à ce jour où Valéria plaida régulièrement, consciencieusement, avec conviction, selon Carla, qui ne s'arroge que peu de poids dans la décision finale, car finalement Nicolas céda. Dimanche matin, c'est officiel, l'Élysée annonce que la France n'extradera pas Marina Petrella, raison humanitaire. Colère à Rome, dans son ensemble, la gauche française et les associations des droits de l'homme se félicitent. Il est vrai que le romancier Cesare Battisti n'a pas eu cette chance, mais à l'époque, Nicolas n'était pas à l'Élysée et Valéria n'était pas sa belle-sœur. Bref, la diplomatie ne se faisait pas en famille. Ah, si les tous les sans-papiers connaissaient Valéria.
Culture vive, Pascal Paradis.
Il y a beaucoup de monde qui travaille au 104 de la rue d'Aubervilliers. Mais il y en a moins que par le passé, quand le 104 était une entreprise de pompes funèbres qui marchait bien, qui était active, qui était rentable. À l'époque, 1500 employés environ venaient chaque jour sur le site, qui pour découper les bois, qui pour vernir les cercueils, qui pour coudre des tentures, laver ou réparer les corbillards, nourrir les chevaux puis les moteurs, choisir et recevoir les fournisseurs, visiter les chefs d'atelier, parler aux familles, aller chez le coiffeur, manger à la cantine, faire cirer ses potes ou draguer les secrétaires.
Aujourd'hui, autrefois plutôt les pompes funèbres, aujourd'hui le 104 rue d'Aubervilliers, un nouveau lieu de création dans Paris, inauguré en grande pompe, si j'ose dire, samedi et qui ouvre au public ce lundi. Avec nous Frédéric Fisbach, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes metteur en scène et avec Robert Cantarella, co-directeur de ce nouveau lieu, le 104. Ce qu'on y verra, ce qu'on y fera, c'est votre projet. Et on vous doit notamment cette commande faite à l'écrivain Olivia Rosenthal, bonjour.
Bonjour.
Ça s'appelle Viande froide et c'est une installation sonore que l'on peut voir donc au 104 et un livre qui raconte quoi ? Qui raconte la métamorphose du lieu ?
Qui raconte la métamorphose du lieu et puis qui raconte aussi comment ça se passe quand on travaille dans un lieu et le lien qu'on a avec un lieu dans lequel on travaille. C'est-à-dire à la fois quand on est ouvrier d'un chantier, à la fois quand on travaillait aux pompes funèbres et quand on est un artiste qui travaille dans un lieu. Donc ce qui m'intéressait, c'était le lien entre un lieu de travail et les gens qui y sont, qui y circulent et qui l'occupent.
Et pour cela, vous avez beaucoup écouté ceux qui travaillaient avant, donc les ouvriers des pompes funèbres, ceux qui ont transformé ce lieu et ceux qui y travaillent aujourd'hui, dont Frédéric Fisbach par exemple.
Voilà, j'ai interviewé tout un tas de gens, dont Frédéric Fisbach effectivement, et j'ai fait avec eux la visite du lieu pendant le chantier. Et à partir de ces entretiens, donc, et de tout ce que j'ai recueilli, j'ai composé un texte qui reprend ce que les gens m'ont dit et qui aussi transforme un petit peu ce qu'ils m'ont raconté.
Ça ressemblait à quoi il y a 2 ans ? Un trou ?
Ça ressemblait à un grand trou, comme je l'explique au début du livre.
Il y a des pages très très drôles sur le trou, hein, comment faire son trou, aller dans le trou, etc., etc.
Oui, parce qu'en fait, comme j'étais aussi en train de travailler sur un livre qui porte sur les trous de mémoire, du coup, tout s'est un peu mélangé dans ma tête. Et effectivement, c'était essentiellement un grand trou très impressionnant et dans lequel maintenant on a construit des parkings. Et du coup, le trou est devenu invisible.
Et le trou est comblé.
Oui, il n'y a plus de trou.
Il n'y a plus de trou. Il y a 2 halles. Assez gigantesque, avec des ateliers, avec des salles de spectacle, etc. Le 104, pourquoi appeler ce lieu le 104 ? C'est garder la mémoire, Frédéric Fisbach ?
Ben, c'est garder la mémoire. En fait, on est le lieu, donc le service municipal des pompes funèbres, hein, SMPF, s'appelait comme ça depuis toujours. C'est-à-dire dans le quartier, les gens disaient on va au 104, on passe devant le 104. En fait, certainement parce que c'était la sortie des corbillards très très décorés. Hein, il y avait plus de 160 convois par jour qui sortaient pour aller chercher les corps à l'extérieur. Et sans doute que ce côté spectaculaire, le théâtre du dernier voyage, enfin la décoration comme ça, a fait que les gens, c'était marquant, donc ils sortaient du 104. on s'est un peu creusé la tête, on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on est retombé sur 104 au bout du compte.
Donc vous n'avez pas bougé quant au nom, mais la fonction a changé quand même.
Oui, voilà.
On y sort plutôt mieux que quand on est rentré.
Encore une fois, les corps n'étaient pas là, donc les gens qui travaillaient, cette usine à deuil, hein, comme les anciens l'appelaient, c'est vrai que c'était un lieu extrêmement joyeux.
Beaucoup, vous racontez ça, Olivia.
Oui, les anciens m'ont beaucoup parlé des fêtes qu'il y avait, et puis dans les départs à la retraite, des pots, etc.
À la Saint-Éloi.
Ouais. Mais donc en fait
pourquoi la Saint-Éloi, c'est quoi?
Parce qu'il fêtait la Saint-Éloi tous
les
ans.
Non,
c'est pas particulièrement le patron des pompes funèbres, mais il fêtait la Saint-Éloi et d'ailleurs on a quelques images dans un lieu qu'on appelle le lieu de mémoire qui a été travaillé par Adrien Rovero qui est un designer et on les voit préparer le repas de la Saint-Éloi et puis avancer dans le repas et généralement ça finissait sous la table.
Et en fait, ils expliquaient aussi que dans le lieu, il y avait énormément de petites cantines complémentaires. Il y avait la cantine principale, mais ils passaient leur temps à manger partout. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai appelé ça viande froide. C'est pas seulement une référence au corps qu'il n'y avait pas d'ailleurs, mais c'est aussi une référence à tout ce dont ils m'ont parlé concernant la nourriture.
Alors, c'était gigantesque à l'époque. Ça l'est encore. 39 000 mètres carrés à peu près de salles de spectacle, 18 ateliers pour des résidences d'artistes avec des lieux de fabrication, des salles de répétition, etc. J'ai l'impression que c'est un village, mais vous préférez le nom de rue, je crois, hein, Frédéric Kiesbach, parce qu'on va de la rue Curiel à la rue d'Aubervilliers.
Oui, parce que c'est surtout pas le village, il y a le côté village retranché, Clochemerle et tout ça, donc c'est pas trop mon truc. Moi j'aime bien les grandes villes, j'aime bien les grandes villes parce que justement ça se mélange et que toutes les origines étrangères viennent se mêler, et c'est le cas dans ce quartier. Et ce qui est formidable en fait, c'est que ces deux halles dont vous parliez tout à l'heure, en fait elle s'apparente à un passage, comme un passage parisien, comme on peut en voir dans le 10e, dans le 2e, dans le 9e. Et c'est vrai que, vous savez qu'il y a derrière cette idée du passage qui naît dans le milieu du 18e siècle, du 19e, pardon, une espèce d'utopie comme ça qui serait le nouveau lieu de la ville, le lieu du commerce, le lieu d'une dynamique, d'un mouvement, et de tous les commerces, hein, compris le commerce amoureux. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup cette idée.
On va flirter au 104.
Ah bah, bien sûr. Parce que on a en projet d'avoir une Love Hotel Room, donc comme son nom l'indique,
ou faire flirter,
c'est plus que flirter, mais c'est pas mal non plus, c'est la suite quoi. Mais c'est vrai que c'est pour nous le fait que ça soit un espace public et que cet espace que le centre comme ça soit un endroit où on bouge, où on est en mouvement, ça nous paraît formidable, une chance formidable.
Vous parliez d'un lieu d'utopie, ça veut dire quoi? Parce que c'est un lieu pour les artistes d'abord.
Ben non, c'est un lieu pour le public aussi. oui et non, c'est-à-dire que pour nous le projet il réunit les deux acteurs essentiels de la relation à l'art, que sont les artistes et le public. C'est-à-dire que d'une certaine manière on parle moins d'œuvre que de l'artiste en train de travailler, donc que de l'artisanat de l'art si, hein. Et puis du public qui lui aussi est dans un travail sur son propre regard et sur le goût.
Ça veut dire que pour faire chic, le public qui ira au 104 verra ce qu'on appelle des work in progress, c'est-à-dire des états de travail.
Voilà, c'est-à-dire que nous on accueille, en fait, c'est un lieu de création et de production, c'est pas un lieu de diffusion, c'est-à-dire qu'on montre pas a priori d'œuvres abouties, même si pour l'inauguration c'était la fête et puis que Olivia, par exemple, était en résidence pendant la période de préfiguration, donc là elle a donné à entendre et à lire son travail abouti, mais c'est vrai que le 104 il accueille surtout des temps de travail. La particularité, c'est que ces temps de travail, ils sont ouverts au public. Pas tout le temps, c'est pas un zoo, mais d'une certaine manière, on organise la visibilité de ce temps habituellement invisible et très fantasmé qui est le temps du travail.
Alors samedi, c'était inauguration au 104 avec la présentation d'une vingtaine de projets, de la musique, du théâtre, de la vidéo et une intervention très symbolique de l'artiste Nicolas Simaric où il est question d'un échange de clés.
C'est une vieille clé d'appartement parisien.
J'ai apporté des clés comme ça, de boîte à lettres. J'ai d'autres clés, mais je donne ça comme ça, c'est symbolique pour avoir la petite clé.
On recueille des vieilles clés des gens pour faire des dalles de clés avec toutes les clés des gens. Donc on fait des doubles pour les gens qui veulent absolument participer pour aujourd'hui, pour l'ouverture, avoir absolument la clé du 104. Qui est la clé qu'on donne en échange, qui est une sorte de pass VIP qui donne la possibilité d'accéder à des lieux insolites, à des événements et des performances que je vais faire autour du thème de la clé. Ce que j'aime bien, c'est que il y a les symboles qu'on connaît de la clé, c'est-à-dire propriété, la poche. Alors que là, du coup, les gens sont côte à côte. Chacun regarde, ah, vous avez ramené quoi comme clé, c'est quoi vos clés. Il y a des discussions, des anecdotes, et c'est tout ça qu'on recueille. Et ensuite, le principe des dalles, c'est faire justement mettre ensemble au même niveau, c'est-à-dire au sol, toutes ces clés, où justement on modifie ce côté privé, individuel. Donc c'est un peu le détournement de cette image.
Votre clé peut servir pour une grande performance qui aura lieu le 22 janvier, pour les 2 ans de la mort de l'abbé Pierre, puisque ce projet est construit en collaboration avec la Fondation Abbé Pierre. L'abbé Pierre, avant de mourir, avait dit « Sur ma tombe, je ne veux pas de fleurs, apportez-moi des clés ». Donc symboliquement en rapport avec son combat pour les mal logés et les sans logis.
C'est symbolique les clés. Ça ouvre votre maison, le paradis, plein de choses. Hein.
Vous avez donc la bénédiction de l'abbé Pierre pour ce 104, Frédéric Sisbach.
Et oui. Qui l'eût cru ?
Qui l'eût cru ? C'est un exemple parmi d'autres, mais est-ce que ce côté participatif, justement, est très important pour vous ?
Il l'est, mais il n'est pas fondamental. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se méprendre et penser qu'au 104, il ne va y avoir que des projets participatifs. Quand je parle avec Robert Cantarella, quand nous parlons de cette façon d'ouvrir ce temps de travail, de donner peut-être à sentir et à comprendre pendant ce temps de l'artisanat, donc au quotidien de l'élaboration d'une œuvre, il ne s'agit pas de parler forcément de participation. Donc là, Nicolas, lui, à développer ce projet, mais c'est l'aboutissement de son projet.
C'est pas un centre socio-culturel pour le quartier. Quartier très difficile par ailleurs, le 19e, il y a de nombreuses immigrations, ouais, pas mal de deals.
J'ai cru que vous alliez dire que c'était un quartier très passionnant, parce que c'est un quartier très passionnant, aussi difficile, mais ça c'est vivant, c'est-à-dire que c'est un quartier qui est passionnant parce qu'il est cosmopolite. Personnellement, c'est pour ça que j'habite dans une ville comme Paris, parce que justement le monde entier y est représenté. Et que quand j'ai pas la chance de pouvoir, et comme j'ai pas la chance de pouvoir pouvoir voyager en permanence, et ben voilà, j'aime ça. Dans ce 19e, on a beaucoup exagéré, non pas la pauvreté, elle est réelle, hein, c'est le quartier le plus pauvre de Paris, non pas les problèmes de drogue qui sont réels aussi, mais on a par contre énormément essayé d'habiller ou de maquiller les événements qui se sont passés dernièrement, notamment en mettant ça sur le compte de communautés religieuses, ce qui n'était pas du tout le cas. C'est malheureux, c'est un problème entre bande de jeunes gens.
Oui, parce qu'il y a eu des affrontements entre des jeunes juifs et des jeunes musulmans.
Voilà, mais en l'occurrence, ça n'avait rien à voir avec leur appartenance religieuse.
Mais est-ce que c'est un projet pour le quartier aussi ? Aussi, entre autres.
Ça ne peut, le 104 ne pourra vivre qu'à partir du moment où il est non seulement accepté, mais qu'il devient un lieu de vie pour ce quartier.
Frédéric Fisbach, Bertrand Delanoë, le maire de Paris, qui met à peu près 10 millions tous les ans pour financer ce lieu, donc il est particulièrement intéressé.
On aimerait bien, c'est 8 millions.
C'est 8 millions, voilà. Donc il vous en restera 10 à trouver par ailleurs. 18 millions hein, et 100 millions d'investissements.
100 millions d'investissements, oui. En fait, c'est 12 millions de budget par an. Donc nous, il nous reste à trouver 4 millions par an.
Alors, ça paraît un détail, mais il y a plein de gens qui s'inquiètent d'ailleurs que tant d'argent ait été donné au 104, notamment le directeur du théâtre de la Bastille qui s'inquiète donc de ce nouveau lieu qui prend des subventions alors qu'il en manque peut-être pour des lieux déjà existants.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on s'en est d'ailleurs expliqué avec lui, mais pour nous, il n'y a absolument aucune polémique. Je pense que il y a simplement qu'on est complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'au 104, on travaille à développer des projets et à aboutir des œuvres qui vont aller se montrer ailleurs. J'allais dire se faire voir ailleurs, c'est pas du tout ça, mais aller se montrer ailleurs. Et cet ailleurs, c'est tous les lieux de diffusion qu'il y a à Paris, et ils sont nombreux.
Donc on pourra répéter une pièce de théâtre chez vous au 104 et ensuite aller la jouer au Théâtre de la Bastille. On pourra écrire un livre chez vous et l'éditer ailleurs.
Oui, bien sûr, et c'est vraiment la raison d'être du 104. En fait, c'est pour ça que je parlais du public, c'est que c'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement un lieu de création. création et de production pour les artistes et pour d'autres lieux, c'est que le public, c'est aussi un lieu d'apprentissage et transmission pour le public. Développer le goût pour les représentations d'aujourd'hui et qui se développe dans toutes les disciplines artistiques.
Et en se promenant au 104 avec un casque sur la tête, on peut entendre depuis samedi et pour quelques jours, semaines et mois encore, Viande froide, le texte d'Olivier Rosenthal.
1. La viande froide, c'est du tout cuit. C'est ce que je me dis, et puis j'en ris. La mort, on n'y pensait pas. On faisait un métier comme un autre. La mort n'entrait pas en ligne de compte. Aux pompes funèbres, on ne dit pas cercueil, on dit boîte. On dit mettre en boîte. On ne dit pas tombe, on dit trou. On dit mettre au trou. La périphrase est un moyen comme un autre d'échapper momentanément à une pensée qui, au moindre accès de faiblesse, atteindra l'endroit précis où ça fait mal.
Extrait de Viande froide, donc à la fois une installation sonore et un livre d'Olivier Rosenthal, qui est donc le fruit d'une résidence pendant un petit peu plus d'un an au 104. Est-ce qu'il manquait à Paris des lieux de résidence pour les écrivains ? Il me semble que non.
Ben en même temps, en termes de résidence proprement dite, il n'y en a pas tellement à Paris. Il y en a peu d'ailleurs en France en général. Donc je pense que c'est vrai que c'est très important d'avoir de faire exister comme ça des lieux de production. Où, alors c'est vrai que pour les écrivains, c'est un peu particulier parce qu'en général, les écrivains, ils se mettent à une table avec un stylo et
ils n'ont
pas besoin d'avoir un bureau hors de chez eux. Mais en même temps, ça dépend le travail qu'ils font. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai rencontré énormément de gens et que ça aurait été bien, là, en l'occurrence, c'était pas possible parce que le 104 n'existait pas en tant que tel, mais c'était bien d'avoir un lieu pour recevoir, par exemple, ces gens et pour pouvoir faire les entretiens avec eux dans un lieu qui aurait déjà été le 104. Ça aurait été encore mieux.
Et l'idée de se frotter à d'autres artistes qui ont d'autres disciplines, qu'ils soient vidéastes, hommes de théâtre, que sais-je encore, est-ce que c'est important pour un écrivain ?
Ben, ça dépend quel écrivain. Moi, c'est vrai que c'est une chose que j'aime beaucoup faire et que j'essaye effectivement de travailler avec des cinéastes, avec des vidéastes, avec des chorégraphes, etc. Parce que voilà, pour moi, ça fait partie d'une réflexion que j'essaye de mener sur les liens aussi entre les différentes formes d'art. Bon, après, c'est vrai que chacun est différent par rapport à ça. C'est vrai que le 104 peut aussi être l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent sur d'autres matériaux, qui travaillent d'autres arts. Et voilà, ça peut produire
des rencontres et
des croisements. Et ça, je crois que c'est très important aussi.
Frédéric Fisbach, comment vont être choisis les artistes ? Il y en a donc une trentaine prévues à peu près par an, 30-35
entre 30 et 40 pour l'instant. Voilà, essentiellement par appel à projet. Donc il y a deux appels à projet par an via Internet et voilà.
Mais il faut quoi ? Il faut être très connu, il faut être inconnu, il faut être parisien.
Il faut avoir un projet. Et après il est lu il y a différents jurys et différents tours et puis voilà on aboutit à une sélection de d'un certain nombre de projets. C'est vrai que là on est dans le deuxième appel à projet. Il y a eu 3400 projets. On va en sélectionner peut-être sur cet appel à projet une quinzaine, ce qui est très peu. Ce qui est trop peu. Mais alors c'est des fois ce qu'on nous dit. D'ailleurs on nous dit vous allez pouvoir prendre que 15 projets. On dit oui, bien sûr, mais il faudrait qu'il y ait plein de 104 qui existent partout. C'est-à-dire que on va pas résoudre tous les problèmes c'est pas parce que ce bâtiment est vaste qu'on va pouvoir accueillir tout le monde. Mais l'idée c'est que on commence à le faire. Déjà commencer à le faire, et puis après, j'espère que ça va donner des idées à d'autres lieux, à d'autres villes, pour essayer d'offrir ces espaces aux artistes qui manquent cruellement à Paris et dans beaucoup d'endroits. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui partent à l'étranger d'ailleurs, vivre à l'étranger. Et puis des espaces pour le public, pour que le public puisse aussi aller vers des démarches, des écritures d'aujourd'hui qui ne vont pas de soi et auxquelles il faut être confronté.
Il faut préciser que on peut être résident au 104 quels que soient ses papiers. On n'est pas obligé d'être français. C'est
absolument
un appel à candidature internationale.
Absolument.
Frédéric Fisbach, merci beaucoup. et longue vie au 104 et à ses multiples événements à venir. Merci aussi à vous, Olivia Rosenthal. Viande froide, votre livre est édité par les éditions du 104, puisque vous êtes aussi une maison d'édition, visiblement. À signaler aussi la parution ce matin, ça m'est arrivé ce matin dans votre boîte aux lettres, dans ma boîte aux lettres, plutôt, d'un court texte intitulé « Les lois de l'homme ».